Et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le journal d'Ariane Grissel. Bonjour Ariane.
Bonjour. Code QR, passe sanitaire et ce mystère. Comment des escrocs arrivent-ils à usurper l'identité de médecins? Plusieurs praticiens se sont rendus compte que des certificats de vaccination ont été émis à leur insu. Nous irons également en Algérie. 71 morts dans les incendies qui touchent le pays. Une chaleur exceptionnelle. Des feux partout, nous dira un pilote de Canadair. À suivre aussi la Belgique. Paysage toujours marqué par les inondations d'il y a un mois. Des bénévoles viennent aider à nettoyer ce qui peut l'être. Un herbicide mal utilisé, 500 000 tonnes de betteraves à jeter et puis du féerique tout en pixels, direction le Festival International d'Art Numérique à Metz en fin de journal.
Dans un gros quart d'heure, le premier invité de la matinale, Olivier Roy, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afghanistan, sur la situation là-bas après la prise hier de grandes villes, Herat, Ghazni ou encore Kandahar.
France Inter.
Les opposants au pass sanitaire doivent à nouveau manifester demain dans toute la France.
200 rassemblements prévus, 250 000 participants attendus, mobilisation en hausse chaque semaine. Le pass sanitaire rejeté catégoriquement par les uns, convoité par d'autres, même s'ils refusent de se faire vacciner, d'où certains trafics. Des médecins se sont aperçus que leur compte a été piraté pour émettre des certificats. Un praticien d'Arcachon vient de déposer plainte. 55 documents émis à son insu, particulièrement visés par les usurpateurs. Vaccin Covid, le site de l'assurance maladie où sont enregistrées les vaccinations réalisées en France. Hélène Chevalier.
Pour pouvoir enregistrer une vaccination dans l'application Vaccin Covid, le docteur Éric Alain Junès doit s'authentifier. À son cabinet, il introduit sa carte professionnelle de santé dans un lecteur. En revanche, dans le vaccinodrome où il exerce également, ce sont les secrétaires médicales qui éditent les certificats de vaccination. L'authentification se fait alors de façon virtuelle via le smartphone du médecin.
Lorsqu'une secrétaire, par exemple, va nous demander donc la connexion, il va y avoir un bandeau sur le smartphone qui va s'appliquer, donc, et nous, à ce moment-là, on clique sur le bandeau et on tape notre code. Évidemment, dans la matinée, il y a régulièrement des déconnexions, donc on est sollicité une dizaine de fois minimum pour retaper le code pour que la secrétaire puisse se reconnecter.
En plus des secrétaires médicales, Éric Alain Junès partage son compte avec des professionnels de santé comme des médecins à la retraite ou des internes qui n'ont pas accès à l'application vaccin Covid.
C'est peut-être à ce moment-là qu'il peut y avoir une vulnérabilité parce que, entre guillemets, n'importe qui se connecte à vaccin Covid et qui nous fait une demande d'authentification, on n'a pas de moyen de savoir qui c'est. Alors parfois, la secrétaire nous passe un coup de fil pour nous dire « pouvez-vous valider ?» et à ce moment-là, on tape le code, on la valide. Mais parfois, je vois arriver un bandeau « demande de validation » et je tape le code et l'opération se fait comme ça.
Impossible donc pour le médecin de vérifier que des personnes n'utilisent pas son compte pour falsifier des QR codes, que ce soit au sein de son centre, mais aussi à distance.
Hélène Chevalier, en tout en France, 46 procédures pour faux et usage de faux passes sanitaires ont été ouvertes depuis mai, dont 10 depuis lundi seulement, lundi jour de l'extension de l'utilisation du document. La mobilisation contre le pass sanitaire dans la rue et dans le monde politique, Laurence Perron, une partie des opposants à Emmanuel Macron, dénonce la brutalité de la méthode.
Emmanuel Macron a été très ferme avant-hier.
Nous n'avions pas d'autre choix, c'était cela ou la fermeture du pays.
La manifestation parisienne de Florian Philippot était prévue, mais le président des Patriotes ne cache pas que chaque attaque contre ceux qui refusent le pass sanitaire remobilise ses troupes.
Le président de la République fait exprès de cliver, de brutaliser, puisque je pense qu'il a des enjeux électoraux tout à fait en tête et non plus des enjeux sanitaires.
À la France Insoumise, on défend la vaccination, pas le pass sanitaire. Soutien donc aux manifestants, mais condamnation des amalgames historiques nauséabonds. On en est là à cause d'une gestion inepte de la pandémie, estime Manuel Bompard, eurodéputé LFI.
Le président de la République, il est le patron. Quand les salariés sont un peu récalcitrants, il faut leur taper sur la tête pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le rang. Sauf qu'un pays, ça ne se gère pas comme une entreprise. Il faut faire un travail de conviction.
Sollicité sur les mobilisations de demain, communistes et socialistes n'ont pas donné suite. Les écologistes, eux, considèrent que l'instauration brutale du pass sanitaire a été contre-productive. Eva Sas.
Ça engendre peut-être même des réactions contre la vaccination.
Qu'on ne parle pas d'autoritarisme, s'insurge le député La République En Marche, François Jolivet.
Nous sommes bien dans une démocratie et pas dans une dictature, sinon les manifestations seraient sans doute interdites. Puis je voudrais dire que la pire atteinte aux libertés individuelles, c'est d'être confiné.
Il entend d'ailleurs déposer à l'automne une proposition pour rendre la vaccination contre le Covid obligatoire.
Laurence Perron, 200 lits d'hôpitaux supplémentaires en Martinique et en Guadeloupe pour faire face à la très forte hausse toujours de la prise en charge des malades graves du Covid. Une situation hors norme, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. La France compte 2 400 000 chômeurs. chômeurs, 8% selon l'INSEE. Chiffre quasi stable, c'est 0,1 point de moins qu'au premier trimestre. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Le président algérien annonce l'arrestation de 22 personnes soupçonnées d'être à l'origine des incendies en Algérie.
Allocution d'Abdelmajid Tebboune hier à la télévision. 11 interpellations à Tizi Ouzou, ville connue pour s'opposer régulièrement au pouvoir central. Les dizaines de feux de forêt ont fait 71 victimes. Depuis lundi, la France a envoyé 2 Canadairs sur place. Christian Maffray est l'un des pilotes français engagés contre ces feux.
On a l'impression de voler dans un nuage, tellement il y a des feux partout. Donc comme il n'y a pas trop de vent, la fumée monte, mais elle monte, on va dire, à 1000 mètres et après elle stagne. Et comme il y en a beaucoup, ça occupe un volume énorme. Ce qui nous a le plus surpris, c'est justement de rien voir, à part de temps en temps on voit des flammes, mais pour se déplacer en avion, on est vraiment dans une brume de fumée assez épaisse, assez dense. Quand on va chercher de l'eau en mer, on voit pas du tout l'horizon. Tout est gris, en fait. Tout est gris. Avec la chaleur, pour vous donner une idée, quand on était au niveau de la mer pour prendre de l'eau, donc actuellement en France, on a 25, 30 degrés. Là, on avait 40 degrés. Et là, je vous parle de l'avion dans l'eau, comme un bateau. Donc, vous imaginez, au sol, à 1000 mètres d'altitude, on avait encore 38 degrés.
Le pilote de Canadair Christian Maffray, joint par Jean-François Fernandez. Les Français d'origine algérienne se mobilisent eux aussi pour aider à lutter contre les flammes. Le détail sur franceinter.fr. C'était l'une des dernières digues avant que la vague talibane déferle sur Kaboul. Les talibans affirment avoir pris hier Kandahar, la deuxième ville d'Afghanistan. Progression extrêmement rapide. Ce matin, ils se sont emparés de Lashkarga, dans le sud, capitale de la province du Helmand.
On en parle avec notre invité tout à l'heure, Olivier Roy, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afghanistan.
6 morts dans une fusillade hier en fin de journée à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dont un enfant de 10 ans est le principal suspect. Pas une attaque terroriste, selon la police britannique. Aucune explication à ce geste, pour le moment. Il y a un mois, la Belgique subissait des inondations inédites. 37 morts, des milliers de personnes obligées de quitter leur logement. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Le reportage dans la région de Liège de notre correspondant Jérémy Audouard.
Le long des cours d'eau, il reste énormément de travail. Enlever des montagnes de débris, déplacer des voitures accidentées ou réparer des routes. Du côté des habitants, comme Roger, on est traumatisé par la catastrophe.
C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile de dormir, c'est pas facile parfois d'en parler non plus. C'est compliqué, très compliqué.
Vous y pensez tout le temps ?
Tout le temps, oui.
Allez, je reprends ma place.
Par solidarité, des bénévoles affluent de tout le pays et même de France. Yann Badra et 4 autres membres de l'association GIPS aident un menuisier à vider son atelier.
Celle-ci, elle va où ?
Donc là, on a monté une chaîne humaine où on sort à bras levés l'ensemble des planches pour les mettre en extérieur pour que ça sèche.
La mairie de la ville de Troyes a été totalement rayée de la carte. L'administration a donc été déplacée dans des containers sur un parking. Fabien Beltrand est le maire de la ville.
On a perdu tout, véhicules, serveurs, archives, bâtiments, tout. Et donc on est en train de tout reconstruire millimètre par millimètre.
L'eau et le gaz restent coupés à certains endroits et il est trop tôt pour rénover les maisons. Les murs sont encore humides. Des centaines de logements vont devoir être détruits car trop fragiles. Pépinster, Jérémy Audouard, France Inter.
La quête toujours des origines de l'épidémie de Covid. L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à communiquer leurs données sur leur premier cas pour savoir d'où est partie la pandémie. Regard appuyé vers la Chine avec toujours cette piste d'une fuite dans un laboratoire de Wuhan. Étude d'importance vitale selon l'OMS, l'organisation qui annonce aussi le lancement de recherches internationales sur les cas de Covid long. Les obsèques du prêtre tué lundi en Vendée ont lieu cet après-midi à Saint-Laurent-sur-Sèvre, la commune où se trouve sa communauté des Pères Montfortins. Cérémonie en présence du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'homme qui s'accuse de ce meurtre a été interné d'office lundi soir.
Le ministère de l'Agriculture fait détruire 500 000 tonnes de betteraves.
Surtout dans la Marne et les Ardennes, ça représente 1,5% de la production française. Conséquence de l'utilisation d'un herbicide non conforme. Clément Comte.
Un désherbant qui ne convient pas. Cyril Cognard est le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, Champagne-Bourgogne.
Les producteurs ont été victimes d'une erreur d'une société qui s'appelle Adama et qui en fait a mis sur le marché des produits qui contiennent des molécules qui n'étaient pas attendues et qui ne sont pas homologuées. Ce sont des molécules qu'on n'utilise pas en Europe et donc le ministère de l'Agriculture n'a pas pu se référer à des seuils pour évaluer le risque et donc il a appliqué le principe de précaution.
C'est-à-dire la destruction complète de ces betteraves.
Ce qui est difficile pour les agriculteurs, c'est de détruire la plante à un moment où elle est magnifique et où finalement elle ne demande qu'à profiter de de tout le soleil qu'il va y avoir pendant encore plusieurs mois pour faire du sucre. Mais hélas, il faut détruire.
Et ça a des conséquences un peu plus haut dans la chaîne. Cristal Union devait récupérer 80% des 500 000 tonnes de betteraves qui vont être détruites. Bruno Labillois est le directeur agricole du groupe sucrier.
C'est quelque chose qui est lourd pour Cristal Union. Cette opération va se traduire par moins de betteraves dans nos usines, donc moins de production. Mais j'insiste sur le fait que pour nous, il n'était pas question de transiger avec la sécurité alimentaire de l'ensemble de nos produits.
Et Cristal Union, comme les betteraviers concernés, sont déjà en contact avec la société Adama pour une indemnisation, un remboursement de toutes ces pertes.
Clément Comte de France Bleu Champagne.
Et direction Metz à présent avec son festival international d'art numérique.
Les Constellations, 5e édition, une quinzaine d'œuvres dans toute la ville. Le thème cette année, l'eau dans l'espace, la vie ailleurs. Le reportage à Metz de Cyril Ardo.
Dialoguer avec les extraterrestres, déclencher un orage dans un nuage d'ampoules recyclées ou se plonger dans un hypnotique ballet de néon. Constellation, c'est une diversité d'œuvres au service de l'imagination et de la poésie. De quoi avoir les yeux qui brillent et retomber quasi immédiatement en enfance.
Magnifique, très très beau. Les effets visuels, moi je n'avais jamais vu ça auparavant.
On apprécie l'inventivité et la technique de certaines créations. On aurait parfois aimé qu'elles s'approprient plus les lieux, qu'elles jouent davantage avec les monuments. D'autant que le festival a aussi pour ambition de mettre en avant le patrimoine local. Samir Filali, le chef de projet de Constellation.
On part effectivement d'un lieu, d'une envie, et c'est un travail qui a lieu pendant toute l'année, de découverte de projets, d'artistes. C'est la combinaison de tout ça qui permet de créer une œuvre originale.
Souvent, le son a au moins autant d'importance que la lumière. L'œuvre K2-18B, un imposant monolithe de miroir, souhaite nous transporter vers une lointaine exoplanète. Pour la réaliser, l'artiste Jésus S. Batista est parti des créations musicales du duo Need, Yannick, l'un des musiciens.
C'est vraiment une symbiose entre la musique qui est assez narrative finalement parce qu'elle évolue beaucoup et ce cœur qui est figé, froid. Et il y a ce contraste en fait entre les deux qui finalement se lie quand on peut profiter de l'intégralité. Quoi.
En 2019, le festival Constellation avait attiré près d'1,5 million de personnes sur tout l'été.
Festival Constellation de Metz, c'est à voir jusqu'au 4 septembre.
Merci Ariane Grissel.